Et puis, nous sommes en présence, ce fidèle pont de Jean-Marc Bas. Il vient pour le printemps des poètes, il va nous parler de poésie. C'est l'une de ses passions, mais il est aussi acteur. Votre réaction à ce que vous avez entendu au hashtag de Lise Verbeek, Jean-Marc?
Je pense qu'elle a raison. C'est avec 15 films qui sortent par semaine, c'est dur d'exister. Moi, j'ai arrêté avec les Oscars dans les années 70. C'est un show. Et c'est très bien pour regarder des shows et comme ça, mais je pense que ça aussi vire le spectateur vers un certain genre de cinéma. Et malheureusement, j'y crois pas. Et donc, je regarde les Oscars ou les Césars comme après le foot, les résultats du foot, le jour après, je vois qui a gagné, etc. Mais c'est un show. Et c'est bien, peut-être. Et peut-être je suis un peu trop arrogant, mais j'arrive pas à y croire.
Et alors, quel genre de cinéma?
Hein?
Quel genre de cinéma? Vous dites ça oriente vers un type de cinéma?
C'est-à-dire qu'il y a quelques films qui sont choisis. On voit ça avec les Golden Globes chaque année. On invite les journalistes étrangers pour voir quelques films et tous ensemble, il y a un consensus sur le film qu'il faut promouvoir. Et c'est très bien, c'est du business. C'est du business, mais c'est un show aussi. Donc pour moi, le cinéma, il n'a pas besoin de ça. Le spectateur doit choisir un petit peu sa direction. J'ai rien contre, mais j'ai arrêté dans les années 70.
Bon, par contre, vous avez continué la poésie et vous êtes là justement pour parler du printemps des poètes, du 20e. Printemps des poètes, on va écouter un peu de météo, c'est toujours un peu poétique, Jean-Marc Bas.
Oui, spécialement conçu ce matin pour vous, car France Culture rend hommage au 20e printemps des poètes. Alors si du soulier ou du bout des pneus, vous parcourez les chemins et les routes du grand quart nord-est, de prudence parez-vous, car de la pluie portant verglas vous attend, sur 23 départements de l'Alsace à la Picardie. Le grand quart sud-ouest, tel un miroir inversé, arborera de son côté soleil dominant, même si des risques d'inondation viendront assombrir ce tableau printanier de Gironde. La clémence domine les températures aujourd'hui avec moins 2 à 0 degrés sur l'est en moyenne, 3 degrés à Paname, 5 à Brest, 9 à Bordeaux et sur le vieux port de Marseille, 11 à Perpignan et jusqu'à 13 degrés sur l'île de toutes les beautés.
Merci beaucoup Sophie Delpont. On va entendre des poètes en compagnie donc d'un autre poète, Zeno Bianou, qui vient de nous rejoindre, Jean-Marc Bas, qui est donc notre invité également. Et on va tout d'abord entendre un son qui est magique. C'est Apollinaire lisant sous le pont Mirabeau. Alors tendez l'oreille, puisqu'évidemment le son n'est pas excellent, mais ça en vaut la peine.
Sous le pont Mirabeau coule la Seine, et nos amours, faut-il qu'ils m'en souviennent, la joie venait toujours après la peine. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont le demain.
Ça vous émeut, c'est nous, bien nous?
Oui, parce que c'est une espèce de concentré de mélancolie absolue. Apollinaire était pour moi un représentant de ce qu'il y avait de plus fort dans l'être humain, et en même temps cette espèce de fêlure mélancolique qui a lieu dans le pont Mirabeau et là avec sa voix, parce que on est quand même en début de siècle, de l'autre siècle. Et Apollinaire, c'est celui qui fait rentrer les objets du monde, les choses dans sa poésie, pour en faire quelque chose de définitivement neuf. Et tout d'un coup, on entend effectivement cette fissure du pont Mirabeau. Et c'est magnifique parce que ça vient vraiment d'un autre monde, de très loin.
On va beaucoup parler d'Apollinaire cette année parce qu'il est mort en 1918, mais aussi peut-être parce qu'Apollinaire a fait entrer la poésie dans la modernité. Alors, absolument. Moi j'ai mon idée là-dessus, mais j'aimerais entendre la vôtre.
Absolument, pour moi c'est vraiment un géant. Il y a avant et Apollinaire et après Apollinaire. Parce que il fait entrer tous les possibles du chant. Non seulement il fait entrer la publicité, il fait entrer... Bien avant Duchamp, il n'y a pas de matière qui ne soit pas poétique pour lui. Et pour le coup, il transforme de façon presque alchimique n'importe quelle femme, n'importe quel objet en matériaux précieux. Et il y a aussi son sens du rythme, qui est quelque chose d'extraordinaire. Et là, on est de plein pied dans la modernité. C'est-à-dire, c'est une espèce de rythmique qui n'appartient qu'à lui et qui touche directement le lecteur au cœur, en plein cœur.
On a dit aussi d'Apollinaire qu'il avait en quelque sorte permis de montrer dans la poésie les vis, les jointures, de montrer quelque chose qui auparavant...
De faire entrer, c'est exactement comme quand John Cage dit « le bruit fait partie de la musique mm-hmm. », mais alors vraiment quoi, 50 ans après Apollinaire. Donc c'est cette idée où rien ne peut échapper à l'emprise poétique, dans la mesure où la poésie c'est précisément une perception différente des êtres et des choses. Et en ce sens-là, Apollinaire, c'est vraiment un maître. Parce qu'il a la modernité, parce qu'il a la facture classique, parce qu'il a aussi cette dimension érotique absolument monstrueuse.
Oui, les lettres à loup.
Il est infiniment, pour le coup, il est infiniment moderne et il répond quelques années plus tard à l'injonction rimbaldienne d'être résolument moderne.
Qu'est-ce qu'elle veut dire, cette injonction, pour vous ?
Elle veut dire ce que dit Rimbaud. Quand Rimbaud disait « ça ne veut pas rien dire », excusez-moi ce jeu de mots, c'est-à-dire qu'elle veut dire que la poésie va toujours devant et qu'elle est un signe de puissance et un signe de compréhension.
Jean-Marc Barre, sur ce que l'on vient d'entendre, la voix d'Apollinaire, le pont Mirabeau.
Alors, je connais mal Apollinaire. Heureusement que Zeno est là. Si on parlait de cinéma, je pourrais parler avec ces détails. Je connais mal la poésie. Je suis quelqu'un qui, après 30 ans de métier, sait comment aborder un texte. Je connais un peu, mais j'ai joué Jack Kerouac dans un film il y a pas longtemps.
Vous aimez beaucoup Kerouac?
C'est un petit peu, oui, l'inspiration de ma vie. Quand j'ai lu On the Road dans les années 70 à l'université, je venais d'un passé très militaire, conservateur, catholique, et je me suis rendu compte que la vie n'était pas comme on me l'avait dit, mais comme Jack l'écrivait.
Est-ce que vous voudriez nous en lire un peu ?
Oui,
que vous en avez...
Alors, je peux le faire en français et en anglais.
Eh ben, ça serait très bien.
Ah ben voilà, donc c'est un truc qui s'appelle 239e chorus de Mexico City Blues. Et je le fais. Charlie Parker ressemblait à Bouddha. Charlie Parker, qui est mort récemment en riant d'un jongleur à la télé après des semaines de tension et de souffrance, s'appelait le musicien parfait. Et son expression sur son visage était aussi calme, belle et profonde que l'image de Bouddha, représentée en Orient, les yeux voilés, l'expression qui dit « tout va bien ». Voilà ce que Charlie Parker disait quand il jouait « tout va bien ». On avait le sentiment levé du jour, pareil à la joie de l'ermite ou au cri parfait d'une bande sauvage à une jam session. Whale, whop. Charlie fit éclater ses poumons pour atteindre la vitesse de ce que les mordus de la vitesse voulaient. Et ce qu'il voulait, c'était son ralentissement éternel. Un grand musicien et un grand créateur de formes qui ultimement trouvent leur expression dans les mœurs et ce que vous voudrez. En anglais ?
Bravo !
Vous voulez l'entendre en anglais?
Oui, on veut.
239th chorus. Yeah. Charlie Parker looked like Buddha. Charlie Parker, who recently died laughing at a juggler on the TV after weeks of strain and sickness, was called the perfect musician. And his expression on his face was as calm, beautiful, and profound as the image of the Buddha represented in the East, the lidded eyes, the expression that says, all is well. This was what Charlie Parker said when he played All Is Well. You had the feeling of early in the morning, like a hermit's joy, or like the perfect cry of some wild gang at a jam session. Way a whop! Charlie burst his lungs to reach the speed of what the speedsters wanted, and what they wanted was his eternal slowdown. A great musician and a great creator of forms that ultimately find expression in mores and what have you.
C'est ça, hein, d'être un acteur. Ouais. Jean-Marc Barbe, quelle différence entre le français et l'anglais ?
Énorme, c'est quand même le 20e siècle pour nous, les beatniks étaient vraiment une mouvance contre cette capitalisme américaine, contre cette Amérique post-guerre, pour une ouverture, pour une tolérance, pour une curiosité pour les autres mondes. Et je pense que dans le langage de Kerouac, cette précision est mieux. Je sais pas pourquoi en français, c'est juste un peu différent.
C'est compliqué, hein, la poésie traduite.
C'est compliqué, oui. Ben, c'est-à-dire que Shakespeare en anglais, c'est pas comme Shakespeare en français. Il y a une différence. C'est deux langues différentes.
Il y a une popularité de la poésie dans les pays anglo-saxons. Éric Biégala, dans sa revue de presse internationale, l'a rappelé. Vous trouvez dans les journaux de la poésie aujourd'hui, alors qu'en France, la poésie est de plus en plus marginale. On va en parler avec vous, Zénobianou. Zénobianou n'est pas complètement d'accord. Mais en tout cas, sur la popularité de la poésie dans le monde anglo-saxon, Jean-Marc Barre.
Ben, je trouve que depuis au moins 4-5 décades, la poésie avait perdu son influence. En tout cas, maintenant, avec des journalistes, avec des écrivains, quand je vais voir des speeches, des choses comme ça, la poésie maintenant prend beaucoup d'importance. Car je pense qu'on est inondé par tellement d'images, par tellement d'informations, qu'on est étourdi. Et que peut-être la seule vraie communication, c'est dans ce côté abstrait et absurde de ce que représente la poésie. Et qu'elle est nécessaire aujourd'hui, comme on dit en anglais, to cut through the bullshit.
Ah là, il va falloir que vous traduisiez.
Comment tu dis cut through the bullshit?
D'arrêter?
Non, cut through the bullshit, c'est de séparer la merde.
Trancher
la merde. Il faut trancher la merde, voilà.
Zénobianou, vous n'aviez pas l'air d'être d'accord quand j'ai dit que la poésie était plus populaire dans les pays anglo-saxons plutôt qu'en France.
Elle le redevient depuis, je crois, 2 décennies avec tous ces récitals poétiques, le fait que des acteurs fassent des récitals entièrement poétiques, aussi bien Dussolier que Lucchini, des gens comme ça. Elle a repris sa place d'espace de résistance, comme disait Jean-Marc, et d'espace de résistance à tous les types d'asservissements culturels, médiatiques, politiques. Et je crois, parce qu'elle est elle est absolument immortelle. Je veux dire, là, on est en train de parler d'un genre que nous vénérons, mais qui est quand même né avec Homère, qui est né avec les prêtres védiques indiens, et qui est toujours là. Le roman a eu des hauts, des bas et tout, mais la poésie fonctionne toujours comme une espèce de levier de l'être humain.
Justement, sur les hauts et les bas du roman, de plus en plus de romanciers disent que la fiction, c'est pas forcément leur truc. La notion de style est une notion qui évolue. On a l'impression que beaucoup s'en désintéressent. Vous, en tant que poète, Zénobianou,
la poésie, d'une certaine manière, c'est le style. Au sens où quelqu'un comme Leopardi a défini la poésie comme le plus haut état du langage, ou comme l'état le plus véritable du langage. Mais il faut aller encore plus loin d'une certaine manière, parce que la poésie, c'est pas simplement ce genre littéraire très ancien que nous vénérons, c'est aussi une façon de percevoir radicalement différente, comme l'ont montré aussi bien des gens comme Rimbaud, tous les gens de la poésie vécue, si je puis dire, que des gens comme ceux de la Beat Generation dont parlait Jean-Marc à l'instant. Donc c'est tout un courant où la poésie devient vraiment et réellement une posture de vie opérante.
Vous pourriez nous lire du Zénobianou ?
Avec plaisir.
Vous en avez ?
J'en ai.
Alors voilà,
c'est un poème qui joue beaucoup sur le rythme. Et c'est un poème d'amour aussi. La vie de ton visage. La vie de ton visage, c'est la vie sans fin. La vie vive, la vie vif-argent. La vigie qui joue avec le grand large. La vie de tous les âges, c'est la vie si vivante. La vie de ton visage, si vigilante. La vie qui vit revolte vivace de ton visage, sans âge ni visa. Vivement, la vie et ses vivas. Vivement l'absolu vivable, vivement le vivifiant, vivement la vanille de tes veines, loin de tout ce qui vivote, de tout ce qui vitrifie, vivement la vivance de tous les grands viviers, vivement cette vie sans vitrine, cette vie sans visière, cette vie sans venin ni verdict, cette vie sans verrou, cette vie des hautes viveuses, cette vie de vélin en éveil, cette vie de velvet que je vois sur ton visage, cette vie qui dévoile ma vraie voix, à la douce vitesse de ton visage, à la vitesse vitale des visons qui visent toujours de visu, à la vitesse virginale du vibrato sans fin de ton visage, à la vive vitesse de cette vibration pleine de verve des voyous voyants qui vivent en pur vertige.
Merci beaucoup Zénobianou, c'est très beau. Si vous aviez à présenter ce texte, vous avez débuté en disant qu'il s'agissait d'un poème d'amour.
Mm-hmm. C'est une variation sur le visage à partir de la lettre V et en insufflant comme ça une espèce de rythmique de rythmique de vie, parce que pour le coup le visage, on parlait de toutes ces images qui déferlent sur nous sans queue ni tête, mais pour le coup le visage, c'est ce qui reste toujours de plus humain comme image définitive, et je pense que c'est un thème de variation sans fin.
Qu'est-ce que les poètes ont à dire sur leur poésie? Est-ce que vous êtes maître du texte que vous écrivez? Est-ce qu'il ne vous appartient plus, Zeno Bagnou?
Oui, d'où mon travail avec les acteurs, aussi bien Jean-Marc Barr que Denis Lavant, que Robin Renucci, que Checky Cario, tout ce travail avec des gens, des acteurs habités par la poésie. Une fois que le texte est fait, il est aux autres. Et pour le coup, c'est à eux de le faire tourner.
Et comment vous faites, Jean-Marc Barr, pour le faire tourner, pour incarner, pour dire un poème?
Ben, je vis. C'est vraiment ça. Maintenant, après 20-30 ans de carrière, je commence à acquérir un petit peu les fruits d'un bon travail et les armes, les outils pour dire un poème. Mais ce qui me nourrit, c'est ma connaissance de la vie. Et moi, je peux pas apprendre un poème dans une soirée. Moi, j'ai besoin de le lire pendant une semaine, 10 jours pour le comprendre. Mais dès que je le comprends, c'est comme un fruit que je peux partager avec tout le monde. Et ça vient après 30 ans de métier.
Et les poèmes qu'on ne comprend pas, je pense à une tradition française d'une poésie qui n'est pas une poésie facile. On peut penser à Mallarmé.
Bien sûr.
On peut penser aussi à certains propos de Valéry, poésie en prose.
Exigeante
ou même poésie.
Aussi, bien sûr.
Qu'est-ce qu'on fait avec cela?
Et on le laisse infuser en soi. C'est-à-dire, on n'aborde pas Mallarmé, puisque vous en parlez, principalement comme un poète hermétique, mais au contraire, on essaye d'entendre le chant de la langue, et le chant de la langue qui fait entendre autrement les mots. Mais sans or soupirer que cette vie venue, l'initiation du feu toujours intérieur, originellement la seule continue dans le joyau de l'œil, véridique ou rieur. Bon, au départ, on ne comprend rien. Mais on est pris par la musique. Et après, on voit la dimension orphique, pour le coup, de Mallarmé, qui dissimule une sorte de message secret. Kerouac, puisqu'on en parlait tout à l'heure, parlait du message secret du souffle. Et c'est vraiment ça qui se passe dans la poésie de Mallarmé. C'est pas simplement une poésie difficile.
Mais ce qu'il y a justement.
Plutôt exigeante.
Mais ce qu'il y a justement de précieux dans ces textes, c'est que ce sont des textes qui résistent, comme vous le disiez d'ailleurs, Jean-Marc, et vous aussi, d'ailleurs, Zeno. Et il y a quelque chose qui résiste là-dedans, à une époque où justement, on est extrêmement soucieux de faire compréhensible, que tout soit compréhensible, qu'il n'y ait rien, en fait, aucune aspérité à ce que l'on dit ou à ce que l'on écrit.
Oui, ben la poésie, c'est le contraire absolu. Exactement, pour le coup de tout ça. C'est vraiment le contraire vivant. C'est ça la chose la plus importante. C'est ça qu'il faut faire passer.
Jean-Marc Barr.
On est dans l'abstrait, mais dans l'abstrait, on peut être dans la vérité. Et je pense que la poésie est vraiment un arme. On est dans un monde où tout doit être défini, souligné, on doit comprendre. La poésie, c'est l'opposé total. C'est vraiment dans le chaos de notre vie où il y a un peu de sens et que tout le monde peut le reconnaître. Voilà, c'est tout.
Et donc, on peut lire Zeno Bagnou. Vous nous avez lu un extrait de l'un de vos poèmes. On peut entendre Jean-Marc Barr pour ce 20e printemps des poètes qui a lieu et auquel nous rendons hommage. Aujourd'hui, nous serons rejoints dans quelques dizaines de minutes par Daniel Maximin, qui est lui aussi un grand poète qui a notamment écrit L'invention des désirades. Et puis, on entendra également d'autres poèmes. Et il y aura de la poésie un peu partout, dans les journaux, dans le billet politique de Frédéric Seize. En attendant, poétiquement, je vais vous dire bon réveil. Il est 8h sur France Culture.